Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller successivement rue Frédéric Pesson, puis place de la Comédie. Pourquoi ? Parce que j'accueille la directrice du Centre d'art La Fenêtre, qui quitte un lieu pour l'autre. Gaëlle Maury, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, votre parcours résulte, me semble-t-il, de plusieurs confluences ou changements. Dans votre formation avec l'orientation vers l'histoire socioculturelle, j'ai retenu votre mémoire sur les émules du canard enchaîné en Afrique, vers le numérique et le multimédia, puis vers le management d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dans votre itinéraire professionnel, vous avez joint production et formation dans les domaines du web design et autres outils numériques, et vous dirigez La Fenêtre depuis sa création en 2010. Avant que nous parliez de vos activités, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Première question, Gaëlle Maury, quel est le lieu ou les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auquel vous êtes attaché ou que vous conseillez à vos amis de passage ?
Bonjour Alain. Alors sans hésitation aucune, la librairie Entrée Libre, qui est désormais au pied de Saint-Roch, qui est un endroit absolument magnifique, très dynamique, très accueillant, qui a une sélection incroyable, extrêmement large de BD indépendantes et qui a plein d'autres activités et qui est un lieu accueillant, ouais. Accueillant pour d'autres projets.
Elle est dans un lieu qui accueille une mutuelle avant.
Absolument,
une espèce de petit parvis là, devant la librairie.
C'était une ancienne pharmacie. Il y a effectivement une cour qui appartient à l'espace dans lequel ils peuvent organiser plein de choses. Et puis, je disais que c'était un lieu accueillant, d'autant plus qu'on est accueilli en ce moment à la librairie, l'association est en transition entre deux lieux. Nous avons donc quitté la rue Pesson début mars et nous ne prendrons nos nouveaux quartiers que la mi-juillet. Donc merci Entrée Libre.
On va en parler bien sûr longuement. Alors deuxième question, donc vous êtes Montpellierain depuis un certain nombre d'années, vous avez vécu les mutations de la ville. Quels sont les aspects à vos yeux les plus marquants de la trajectoire de Montpellier pour ses habitants, notamment? Qu'est-ce qui vous paraît le plus remarquable, peut-être?
Je vais faire une double réponse qui est vraiment conditionnée par ma propre expérience quotidienne et professionnelle de cette ville, qui est d'abord la question de la cyclabilité. Moi, je me déplace en vélo. Et pour tous mes déplacements personnels et professionnels, grâce au vélo électrique, maintenant, on peut arriver dans un état relativement correct à un rendez-vous professionnel, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et je trouve ça très agréable, et de plus en plus. On est en capacité désormais de faire de très grands trajets en se sentant plutôt sécurisé. Alors, il y a encore évidemment des choses à transformer et à faire, mais je trouve que l'évolution est notable et très sensible pour les usagers. Par ailleurs, je trouve également, et j'étais samedi à l'ouverture du tiers-lieu Restanque dans le quartier près d'Arène, qui était assez proche de là où j'habite, et ce que je vais dire fait écho bien sûr à ce qui se passe pour La Fenêtre sur cette installation en plein cœur de ville. Je trouve que l'espace urbain, le développement de la ville s'oriente beaucoup, s'appuie beaucoup sur des projets culturels ou des lieux culturels. Donc c'est le cas dans l'hypercentre, mais c'est effectivement aussi le cas dans le quartier près d'Arène, qui s'appelle Montpellier Sud, je crois maintenant. Et puis à La Mosson, bien sûr, avec beaucoup de projets très intéressants. J'ai participé au jury de sélection des artistes en résidence à La Mosson, organisé par la Fondation Altemet. Donc il y a aussi plein de choses qui se passent par là-bas autour de la culture.
D'accord. Et donc, messieurs, on va en parler. La Fenêtre a sa place dans ce dispositif en tant que tel et avec les connexions ou les réseaux auxquels elle appartient. Mais justement, allons ouvrir La Fenêtre. Donc, pouvez-vous nous dire ou nous rappeler quelle était l'idée originelle et peut-être originale qui a été mise en place et portée depuis 15 ans, donc ?
Oui, alors je me permets du coup de faire une toute petite rectification par rapport à ce que vous avez dit en introduction. Je ne dirige pas la fenêtre depuis 2010. Je la dirige officiellement en tant que directrice depuis 2018. J'avais conditionné cette prise de fonction à mon entrée en formation de direction de projet de l'économie sociale et solidaire, vous l'avez dit. J'étais bénévole depuis 2010, je fais partie du groupe fondateur de La Fenêtre, et c'est ce collectif a rassemblé autour de Christian Gros, le président fondateur du projet, et de certain nombre d'autres personnalités, qui a fondé La Fenêtre en 2010, qui l'a appeler La Fenêtre, sur une intuition qui me semble assez bonne.
Dites-nous laquelle.
Évidemment, une fenêtre, c'est une ouverture.
Ça,
voilà, on regarde à travers.
Ça ouvre quelque chose.
Ça active la démarche de regarder à travers. Après, voilà, on peut développer tout un tas de symboliques plus ou moins heureuses. Mais bon, en tout cas, pour un projet culturel, ça fonctionne. Donc, on était à l'époque une quinzaine de personnes avec des profils assez différents, enseignants, architectes, graphistes, sociologues, pas forcément tous positionnés sur le secteur culturel, mais globalement tous appétants avec ces questions-là et intéressés, et on va dire regroupés autour de Christian Gros, qui a mis ce local de la rue Pesson à disposition du projet dès sa création, et ce qui nous a permis de concevoir, de développer, d'inventer cet itinéraire un peu particulier autour, dès le départ, des arts appliqués et visuels.
Et en relation, bien sûr, avec la ville, avec la fabrique de la ville. Parce que c'est ça, en définitive, la spécificité de La Fenêtre, et cette orientation est restée. La fabrique a gardé ce cap-là.
Absolument, on n'a pas dévié de cette ligne. Elle a un petit peu évolué au fur et à mesure des recomposition de l'équipe, puisque dès le départ, le conseil d'administration de La Fenêtre, ce fameux collectif fondateur, il est constitué d'expertises. Ces expertises, elles prennent en charge successivement des expositions, des projets. Les premières ont été réalisées, par exemple, sur Bernard Cohn, l'architecte qui a notamment conçu le palais de justice ici, et c'était porté par une architecte, mais pas seulement, aussi une designeuse, etc. C'est-à-dire que au départ, les premiers temps de La Fenêtre, le CA était aussi un organe de programmation et de commissariat. Et donc chacun prenant son sujet.
Donc il y a des compétences qui se rassemblent pour chaque projet.
Absolument. Et donc ces compétences-là, le groupe, évidemment, avec 15 ans de vie associative, le groupe évolue, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent, il y a des gens qui restent. Il y a encore trois membres fondateurs aujourd'hui au conseil d'administration, dont je suis, mais également Nathalie Ravinal et Pierre-Yves Paitavi, qui étaient là dès la création. Voilà, Nathalie Ravinal, qui a inventé les ateliers villes, on va en reparler. Pierre-Yves, qui avait, lui, pris en charge dès le départ, dès les premières années, une exposition des photos de Bernard Plossu, et moi, qui me suis chargée des programmations autour des arts graphiques assez tôt aussi. Je crois que la première expo, c'est 2015, autour de l'atelier Tout va bien, en coopération avec Romain Houdin. Donc, voilà.
D'accord. Donc, il y a la perpétuation de ces engagements et l'alliance donc, de compétences et ou de passions. Alors, pour ma part, je ne vois pas d'autre lieu à Montpellier qui embrasse les questions architecturales et urbaines et les enjeux de la fabrique de la ville par l'angle des arts appliqués et visuels. Mais y a-t-il des fabriques ou quelque chose qui ressemble à ça ailleurs en France, quoi, dans cette démarche, cette voie originale là, qu'on ne comprend pas nécessairement toujours immédiatement parce qu'elle sort un peu des sentiers battus?
Évidemment qu'il doit y en avoir. Je ne connais pas l'ensemble des projets culturels, mais c'est sûr que, en tout cas, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'en 2010, c'était assez minoritaire, ce type d'approche, qui revendiquait une pluridisciplinarité et une transdisciplinarité. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus répandu, et c'est des volontés qui se déploient de façon assez différente. Je me souviens de l'exposition qui s'appelle Archi-Collectif, qui a été faite par Christine Estève en 2014, et qui mettait en lumière, donc 2014 c'était quand même il y a 10 ans, et qui mettait en lumière les pratiques très pluridisciplinaires des jeunes collectifs d'architectes dans la ligne de Patrick Bouchain. Je parle de ETC, de Coloco, du bruit du frigo, et à Montpellier.
Donc des pratiques professionnelles novatrices.
Absolument, et puis qui revendiquaient, ici il y a Abrège, collège, Baptiste et Adrien, qui étaient autant graphistes que architectes, ou voire développeurs, ou voire d'autres pratiques. Donc, ces questions de la transdisciplinarité, elles sont actives sur le terrain depuis longtemps. Qu'on construise un projet culturel autour de ça, effectivement, nous, on était un peu positionnés tôt là-dessus, mais ça existe ailleurs. Ça nous joue des tours, parce que parfois, c'est compliqué d'expliquer ce que fait la fenêtre, parce que la fenêtre revendique de pas forcément toujours bien expliquer.
Alors, je l'ai dit, donc, après 15 ans d'existence, la fenêtre, une nouvelle ère s'ouvre avec votre départ de la rue Frédéric-Pesson dans le quartier de la gare et son arrivée dans le cœur de la ville, peut-être la métropole, la place de la Comédie. Alors, pourquoi ce déménagement dans un lieu d'autant plus prestigieux que vous installez dans l'aile droite face à la façade principale de l'Opéra Comédie, autrefois occupée par le restaurant Well Comédie? Alors, pourquoi ce déménagement et à quelle ambition d'ensemble il correspond?
Donc j'ai raconté qu'on s'installe dès la création de l'association dans ce très beau local rue Pesson. Ce local qui a été un magnifique outil dans lequel on a réussi à collectivement à monter de beaux projets, de belles expositions, mais qui était excentré. Vous connaissez comme moi la logique de l'hypercentre et de la consommation culturelle à Montpellier. Et donc on a toujours eu des problèmes de fréquentation. On a toujours été confronté à une sorte de frustration de que nos projets soient pas assez visible. On s'est questionné un temps sur nos problématiques de communication. On a fonctionné en tant que bénévole pendant des années et même avec beaucoup d'énergie. On fait des autocritiques sur peut-être
quelques insuffisances,
oui, absolument, oui. Exactement, des insuffisances ou des faiblesses de communication. Sauf qu'au fur et à mesure du déploiement du projet, ces insuffisances de communication, on les a réglées. On a investi du temps, du travail sur ces questions-là et force est de constater que on n'explosait pas les compteurs non plus. Et ce constat, il s'est confirmé au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'il devienne problématique, et dans un contexte plus général qui était celui de la complexité de financer un projet culturel. Et la question du financement, elle est centrale dans ce choix de déménagement parce que avoir peu de visibilité ou peu de fréquentation, ça veut dire aussi être en difficulté pour activer ce qu'on appelle les ressources propres dans une association, qui peuvent être de plein de types. Mais bon, globalement, c'est une buvette associative, c'est une petite boutique où on vend du produit culturel, des catalogues d'expo, tout ce qu'on veut, des tote bags, voilà, des cartes postales. Et ça, sans fréquentation, c'est difficile de l'activer.
Alors, ça, c'est le plus immédiat que votre installation à l'Opéra Comédie va induire.
Bien sûr, mais il y en a tellement qu'on va les lister. Mais en tout cas, sur le constat que la rue Pesson devenait problématique, moi, j'ai commencé à le documenter il y a déjà 2-3 ans, et notamment en me rapprochant d'Entrée Libre. Je connaissais Mickaël, Marie et Zelda depuis fort longtemps, à l'époque où ils avaient le local rue du Bail, et j'ai assisté à leur déménagement rue Voltaire, donc Place Saint-Roch, et j'ai vu à quel point aussi la question de l'emplacement était fondamental. On a fait un test, je crois que c'était à l'été 2023, c'est ça. On avait montré chez nous à Pesson l'expo Ville et BD, qu'on avait travaillé avec eux sur leur catalogue, notamment. On l'a remontré l'année d'après chez eux, chez Entrée Libre, dans une version un peu augmentée avec d'autres éditeurs. De mémoire, il y avait eu 500-600 personnes sur l'été à Pesson, même pas, je crois qu'on était à moins de 500, et 2005 l'été d'après. Ce n'est qu'un exemple des différentes démarches que j'ai menées, et aussi en faisant dehors les murs, en montrant une expo à Émile Zola dans la médiathèque dans le cadre du Graphims, en montrant une expo dans l'espace Michel Goualard à la Grande Motte, qu'on a refait là récemment avec le projet autour des pyramides. Je pouvais que constater que c'était... Bon, peut-être que je vais un peu vite, mais ce n'était pas la qualité de nos propositions qui induisait une fréquentation, surtout que sur les vernissages, on avait beaucoup de monde, etc., mais c'était plutôt l'emplacement. Donc moi, j'ai commencé à défendre cette idée que pour se maintenir, la fenêtre devait déménager. D'accord. C'est comme ça que ça a commencé.
Très bien. Alors, une fois les cartons vidés, la pause estivale passée, les activités de la fenêtre, vous les avez évoquées, vont reprendre. Alors, quels sont les points saillants d'exposition? Vous pouvez donner quelques éléments de la programmation de là ou des expositions là, dans les mois qui viennent.
Alors, je vais vous dérouler la programmation autant que je la connais. On ouvre le nouveau local avec une exposition qui s'appelle 14, qui est une exposition collective des quatre graphistes et studios qui ont réalisé les affiches de célébration du 14 juillet à Montpellier dans le cadre d'une commande publique. Alain Le Carnec, qu'on connaît ouais. bien ici, puisqu'il vient de signer le design du Bustram, Annette Lenz, Elmo, et le quatrième sera annoncé prochainement, le créateur de l'affiche 2025, mais donc qui rentre dans cet ensemble de graphistes qui ont contribué donc à régénérer les codes et l'iconographie républicaine dans le cadre de cette commande d'affiches. Ensuite, on aura une exposition qui s'inscrit dans la programmation des chemins du vivant de Montpellier 2028, M28, autour de la question qui est un écho à l'expo du Miam. Donc c'est un supermarché 2 sur la contribution du design graphique à la transition, on va dire, alimentaire et aux grands enjeux de transformation des logiques de consommation alimentaire et de production alimentaire. Ensuite, on reprend notre hommage graphique au Père Noël pour la période. Alors, cette fois-ci, on ne va pas la faire en mai, on va la faire à Noël. En essayant de. Voilà.
Il est hors du monde, là.
J'espère. Entre-temps, on ouvre une autre expo à entrée libre qui s'appelle Dessiner l'architecture, qui est portée par Odile Bezem, qui est une exposition de dessins d'architecture. Donc, ça peut être plein de dessins, des croquis, des esquisses, des dessins de présentation. Enfin, ça va être une très belle expo. Cette expo, on la montre donc à entrée libre en septembre et on la reprend en janvier à l'Opéra. Puis, on reprend Graphims, puisque l'édition 2025 a été reportée. Et Graphims, sur la thématique pour cette troisième édition de Corps et Graphims, graphisme.
Alors, très bien. Alors, je donne une précision. Entrée libre, c'est un jeu de mots. On rentre comme on veut. C'est ouvert, c'est accueillant, mais c'est ENTRITS. Donc, vous voyez l'idée, libre, pour évoquer un peu l'univers dans lequel cette librairie s'installe. Alors, un petit passage par 7, vous l'avez évoqué. Donc, le MIAM, le Musée international des arts modestes, a conçu avec votre contribution une expo qui s'appelle « Superbe marché », collé en un mot, sous-titré « Papier d'Argumenco ». Alors, quelle a été la part de la fenêtre dans la conception de cette expo, là, qui est donc visible jusqu'au 8 mars 2026, c'est le temps.
La contribution de la fenêtre, elle est liée à un parcours qui est construit avec le MIAM depuis 2022 dans la dynamique de Montpellier 2028, mais aussi dans le contexte de à ce que le MIAM et la fenêtre soient, ces deux structures sont adhérentes du réseau R2Midi, qui favorise la coopération entre les projets. C'est comme ça au départ que je vais rencontrer Françoise Adamsbaum pour lui proposer de coopérer. Avec donc la dynamique et les financements de M28, on monte une première expo ensemble qui s'appelle « Les modestes et appliqués ». On se rend compte qu'entre art modeste et art appliqué, il y a plein de choses à construire et à penser. On s'appuie dans un premier temps sur les figures tutélaires, en tout cas les parrains du MIAM, qui sont Étienne Robial, ce grand graphiste, et Patrick Bouchain, qui a réhabilité le chai dans lequel le MIAM est installé. Donc on s'appuie sur ces deux figures très significatives, très parlantes en termes de porosité entre nos disciplines et nos mondes. Ensuite, on propose une bourse de recherche. Dans cette première expo, pardon, on montre une collection de papier d'agrumes. Sur cette collection, on propose une bourse de recherche au duo de designers toulousains Rovo, Gaël Sandré et Sébastien Degel, qui donc travaillent pendant plus d'un an et demi. On a beaucoup bossé, enfin surtout eux, sur cette expo Superbe marché, et qui est donc une exposition sur les papiers alimentaires et, pour faire rapide, sur un graphisme modeste auquel on est confronté quotidiennement mais qu'on regarde pas forcément.
Alors Gaëlle, le temps file, il va falloir synthétiser et aborder sans détour un gros sujet, ce sont les ateliers villes qu'il y a plusieurs années déjà, la fenêtre a lancé. Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont les objectifs et quelles sont les activités qui sont proposées à un grand nombre d'élèves des écoles de Montpellier?
Les ateliers villes, c'est un projet qui a été imaginé donc par Nathalie Ravinal sur le modèle de l'école d'architecture du CAUE à Paris, et qui était la volonté de donner des clés de compréhension à des enfants sur les questions architecturales au départ. sachant que la discipline graphique s'est ajoutée à cet enjeu postérieurement. Donc il y a deux types, c'est un programme, nous on le définit comme un programme d'éducation artistique et culturelle qui fonctionne sur un principe d'atelier. Au départ, les ateliers villes, c'est plutôt des ateliers dans les maisons pour tous et à destination des temps hors temps scolaire, les après-midi, du mercredi, ouais, etc. Et puis, ça devient un programme beaucoup plus, on va dire, large quand on commence à travailler avec l'unité patrimoine de la métropole, qui nous aide à rentrer directement en contact avec les écoles montpelliéraines et de la métropole. Aujourd'hui, les ateliers villes, enfin, sur l'année scolaire 24-25, on est à peu près à 80 ateliers, à peu près à 1600 élèves, 50-60 écoles.
Donc c'est un dispositif considérable qui s'est étoffé, amplifié au fil des années, qui va se poursuivre donc dans l'année scolaire qui débute dans quelques semaines. Alors les thèmes, donc, pour donner une idée, dessiner l'architecture, carto comme cartographie, perméable, imperméable, et également contre vents et marées. Alors pour vous donner un exemple, parce que la question des méthodes, de la pédagogie, de la mise en mouvement de ces enfants, de ces élèves est bien sûr déterminante. Et alors comment c'est organisé?
L'idée, c'est effectivement de donner des clés, de trouver des moyens, des dispositifs pour faire rentrer dans des sujets qui, a priori, sont éloignés des enfants, mais en fait, qui ne le sont pas. Cartotacour, c'est un atelier qui est animé par Géraldine Lissler, qui est designeuse graphique, et qui leur fait dessiner le contour d'une cour et ensuite identifier les zones par des approches qui sont les leurs. Où est-ce qu'on va jouer au foot? Où est-ce qu'on se rassemble?
Sur les usages de la cour.
Sur les usages de la cour, mais qui permettent aussi d'être dans une approche, on va dire, spatio-émotionnelle de leur propre espace.
L'idée, c'est ça part de leur propre perception, si je comprends bien, pour aller vers une compréhension un peu des enjeux ou du traitement de ce genre d'espace.
Oui, et puis d'entrer aussi dans la question de la représentation graphique, de dessiner un contour, de penser effectivement ce que c'est que de la ceinture d'un espace au sens clôture, et donc de rentrer dans ces questions-là, et donc du coup tout doucement d'amener aussi des notions de cartographie. Qu'est-ce que c'est que de faire une carte et qu'est-ce que c'est de la légender? Parce qu'une fois qu'on a dit que c'est là qu'on joue au foot et que c'est là qu'on se retrouve avec les amis pour discuter, on peut mettre une petite pastille dans un coin pour dire c'est effectivement là que ça se passe. Et donc là, on rentre dans la question de la légende. Autre exemple, perméable, imperméable, c'est un atelier qu'on porte depuis quelques années, où on va essayer de faire comprendre qu'il y a des sols qui absorbent l'eau et des sols que non, que pourquoi effectivement on est aussi en train de changer le sol de la cour d'école pour ces questions-là, et qu'est-ce que ça implique.
C'est lié quand même à ça, à la reprise des sols, à la végétalisation, moins de goudron et de béton, etc., qui est en cours, et un certain nombre d'écoles, plusieurs dizaines à ma connaissance, ont été traitées.
Absolument, et l'idée, c'est pas d'arriver avec un arsenal de trucs trop compliqués, l'idée c'est de faire ressentir, expérimenter, dessiner, représenter des choses qui sont les leurs, mais qui les amènent à se questionner ou à prendre conscience de certains éléments qui sont fondamentaux dans, effectivement, la constitution d'une citoyenneté en ville.
Alors, la citoyenneté, c'est un des axes majeurs, je dirais, une caractéristique depuis le début de la fabrique. On a compris que ça prend diverses formes. Alors, ces enfants, est-ce qu'on peut dire, sans tirer des plans sur la comète, qu'ils ont fait leur premier pas pour être à terme des habitants de la ville, des citoyens montpelliérains éclairés?
Je l'espère. Je ne peux évidemment pas répondre
de façon on verra dans 10 ans.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif de la fenêtre. L'ADN de la transmission a toujours été présent. C'est l'ADN de la fenêtre, cette dimension-là de transmettre et d'accompagner sur des... ce qu'on appelle des incapacitations, j'ai réussi à le dire d'un coup. Mais j'espère que c'est ça que ça produit. J'ai l'impression que oui.
Alors, un petit mot rapidement, il nous reste quelques minutes sur graphisme, MES à la fin. Donc, une opération qui a été lancée il y a 2 ans, on vous avait invité avec le réseau des médiathèques de Montpellier. La formule est reprise, là, un mot sur le thème et les conditions dans lesquelles, tous les 2 ans, pour le coup, maintenant, elle va être reprise et se développer.
Oui, graphisme se passe en biennale, donc il y aura une édition en 26 et une édition en 28. L'édition 26, c'est corps et graphisme.
Vaste et excitant sujet.
Oui, il y aura 4-5 expositions, 6-7 médiathèques impliquées, dont la médiathèque centrale Zola. Il y aura une exposition à l'Opéra aussi. On est sur la danse, une espèce de de cartographie ou de constellation de, en lien à la peau, par exemple. On est sur la question du tatouage aussi, dans ce qu'il a de peu de système symbolique. Et à Zola, il y aura une grosse expo d'affiches qui s'appelle Dissection. Donc Dissection, c'est une section pour l'œil, une section pour la main, une section pour le nez, par exemple. Et donc un bel ensemble avec des affiches sur cette question-là.
Voilà qui active notre curiosité, notre impatience, Gaëlle. Alors, pour finir, je pose souvent ce genre de questions à la fin. Dans votre domaine, dans lequel vous travaillez, cette rencontre entre les arts graphiques, l'urbanisme, l'architecture, j'imagine que vous rencontrez des idées reçues, ça vous agace, et vous avez forcé de les évoquer. Quelle est l'idée reçue la plus fréquente à laquelle je vous invite à répondre?
Que les disciplines sur lesquelles on travaille sont faites que pour des initiés ou qu'elles sont trop compliquées et on s'emploie à démontrer que ce n'est pas le cas.
Très bien. Bon, en plus, j'y pense, la perspective des élections municipales, vous n'êtes pas dans une démarche politique, mais cette question-là, on peut espérer qu'elle vienne sur le tapis pendant la campagne des élections municipales dès l'automne prochain. Gaëlle, merci à vous et à une prochaine
fois. Merci beaucoup, au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sérop.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.